France Inter. Marion Lourd, le téléphone sonne.
L'histoire d'un fils perdu et d'une tueuse en série, l'histoire d'une Finlandaise bloquée dans un train, l'histoire d'un homme condamné à de la prison à cause d'une affaire de dette. Ces films, primés à Cannes le week-end dernier, Titane, Compartiment 6 et Un héros, ces films vous donnent-ils envie de revenir au cinéma? Les salles ont rouvert il y a juste 2 mois, après 9 mois de fermeture en tout pour Covid. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à regarder des longs métrages sur nos petits écrans domestiques avec un plateau repas dans le confort de notre salon. Sans masque, sans file d'attente, sans réservation et sans pass sanitaire aussi. Parce qu'il arrive, le pass, preuve de vaccin ou de test Covid négatif dès mercredi, sésame obligatoire pour rentrer dans votre salle d'arrêt d'essai ou votre multiplex préféré. Ça aussi, ça peut en inciter certains à préférer leur canapé. Ou peut-être que notre soif de culture et de contact, toutes ces choses qui nous ont manqué, vont nous précipiter en masse dans les salles obscures. Alors, est-ce qu'on revient au cinéma ou pas? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et bonsoir Claude.
Bonsoir, bah merci de prendre ma question. Alors voilà, je me présente, hein, j'habite en Ardèche, donc à côté d'une ville qui s'appelle Aubenas de 8000 habitants. Je suis cinéphile depuis mon plus jeune âge et je participe en tant que bénévole à l'organisation d'un festival qui s'appelle les Rencontres des cinémas d'Europe, qui a lieu en novembre à Aubenas. Bah, on a une super salle avec une grosse programmation arrêt essai. Et alors moi, je suis très inquiet, je suis extrêmement inquiet parce que l'instauration du pass sanitaire obligatoire, bon moi je l'ai, hein, je suis vacciné et mercredi, là je vais aller voir Benedetta de Verhoeven. En fait, le problème, il est, c'est que ça risque de pénaliser énormément les salles. Moi, je ne suis pas persuadé que tous les salariés qui travaillent à la salle de cinéma soient vaccinés. Donc, je quid de la direction envers ces salariés. Deuxièmement, je ne sais pas si les salles vont avoir les moyens de contrôler les passes. Enfin, voilà. Et du coup, quid des 45 000 euros d'amende promis, là. Et je me dis qu'à un moment donné, enfin, moi, je suis comme vous, hein, j'écoute, vous venez de rappeler le palmarès. Hier soir, j'écoutais Le Masque et la Plume. On a un cinéma qui est extrêmement enthousiasmant, on a envie d'y aller. Moi, les plateformes, ça m'intéresse absolument pas. Il y a In the Mood for Love là, qui ressort de Wong Kar-wai en version remasterisée. Je vois pas où on pourrait le voir autrement qu'en salle de cinéma pour le voir et puis après pour en parler entre nous, parce que le cinéma c'est ça aussi. Après, une salle comme Aubenas, c'est le poumon culturel de la ville, voire de toute l'Ardèche méridionale. Si ce lieu disparaît, quid de la convivialité, quid du bonheur des gens? Enfin, moi je suis retraité, hein, le matin je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de me dire bah, je vais aller au cinéma voir un film et en parler avec les autres et puis après aller boire un coup pour continuer à en parler. Enfin, le cinéma, après le cinéma, c'est encore le cinéma, quoi, pour parodier Mozart. Voilà, donc je suis extrêmement inquiet et je sais pas ce qui va advenir comme ça des petites salles indépendantes qui sont pas sous la coupe des grands multiplex. Voilà, ben merci.
Merci Claude. Merci pour ce témoignage et toutes vos questions aussi. Alors pour vous répondre, nous avons deux invités ce soir. Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, bonsoir.
Bonsoir.
Et la journaliste Capucine Cousin, auteur de Netflix et compagnie, Les coulisses d'une révolution chez Armand Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez entendu Marc-Olivier Sebag, l'inquiétude de Claude par rapport notamment au pass sanitaire.
Alors Claude a raison, le navire à Aubenas, c'est un super cinéma et Christophe et toute son équipe qui mène ce cinéma sont des professionnels tout à fait aguerris, sympathiques et c'est, je suis très heureux d'entendre parler depuis le sud de la Ardèche. Ce que l'inquiétude de Claude, on l'entend, mais la vraie inquiétude, c'est l'épidémie. Et la vraie inquiétude pour les cinémas, ce qu'on a connu pendant les 6 mois de fermeture consécutive, du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, c'est dû au virus. Et c'est la lutte contre l'épidémie qui doit être la priorité, qui est la priorité du gouvernement et qui doit être la priorité de tout un chacun. C'est comme ça qu'on pourra retourner librement et facilement au cinéma. Bien sûr, ça va pas être ça va être un peu plus compliqué dans les jours qui viennent, mais on va tous s'en sortir parce qu'on arrivera à éteindre cette épidémie. Et d'ailleurs, lorsque le 19 mai, les cinémas auront ouvert, qu'ont dit les spectateurs comme Claude et beaucoup d'autres, ils ont dit on aime le cinéma, ils sont revenus en masse, et ils sont revenus en masse parce que ils en avaient assez de rester chez eux dans leur canapé, comme dans votre introduction, vous dressiez ce portrait, terrifiant d'une France confinée. Eh bien, on est sorti de ce confinement, il faut continuer les efforts par la vaccination.
Donc vous n'êtes pas opposé au pass, si on vous comprend
voilà,
bien.
Nous, on n'est pas opposé au pass. Si le gouvernement pense que c'est le meilleur moyen pour sortir de cette situation, eh bien, on mettra tout en œuvre pour que les gens respectent cette obligation et que les salles puissent le mettre en œuvre. Nous, notre critique, elle vient de la rapidité, de la soudaineté de la mise en œuvre de ce pass avec les complexités économiques qui ont bien été pointées.
Alors, juste une précision par rapport à ce que disait Claude. Effectivement, le projet était d'infliger une amende de 45 000 euros aux exploitants qui ne vérifiaient pas le pass. Aujourd'hui, ce qui ressort du Conseil des ministres en cours, c'est plutôt 1 000 euros
On va être prudent parce qu'on n'a pas les textes. Enfin, voilà, la complexité juridique, elle vient aussi qu'en une semaine, il faut mettre en œuvre des choses totalement inédites. Il n'y a pas de texte. Les questions de responsabilité, les questions de relations du travail, les questions juridiques, de contrôle, tout ça n'est pas encore très clair. On le saura peut-être demain, je vous dirai, c'est très clair. On a vu le projet de loi, tout va bien, ou tout va pas bien. Mais ce soir, on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas tous ces éléments. Mais c'est sûr que la mise en œuvre pratique, elle est coûteuse. Il faut plus de salariés et probablement moins de spectateurs dans un premier temps. Mais l'idée, c'est quand même qu'on trouve des moyens pour qu'on puisse continuer à aller au cinéma et au restaurant et vivre sa vie en étant sûr de ne pas s'infecter et en limitant, en réduisant cette épidémie. Et si le pass sanitaire en est un des outils, ben il faudra qu'il soit adopté par tout le monde. Donc c'est compliqué, on a plein d'interrogations. Pour nous, ça va. On comprend pas pourquoi ça va beaucoup plus vite pour les cinémas que pour les restaurants ou les centres commerciaux. On veut avoir les mêmes conditions juridiques et les mêmes délais, c'est-à-dire une semaine de plus, hein, c'est pas grand-chose que ce qu'on demande. On espère l'avoir. J'allais vous dire, on verra demain parce que dans cette crise, à chaque jour, il s'est passé des choses et à chaque jour, on a eu des informations et il faut pas non plus se précipiter ce soir de commenter des éléments qu'on n'a pas. En tout cas, les Françaises, comme Claude, sont revenus au cinéma très nombreux. Il y a eu plus de 20 millions de personnes qui sont venues au cinéma depuis le 19 mai. C'est absolument considérable. C'est une sorte de miracle à la Benedetta, d'une certaine façon. Une sorte de miracle en France, particulièrement en France, beaucoup plus que dans les autres pays du monde et d'Europe. Et je suis très heureux que j'incite Claude donc à aller au cinéma Le Navire à Aubenas à de nombreuses reprises cette semaine et quand le pass sanitaire sera instauré aussi.
Alors, on a une question d'Alice par mail qui dit « Je suis doublement vaccinée, mais pas mes amis qui n'auront pas de passe avant septembre. » On parlait des délais à l'instant. « Et comme je n'imagine pas aller au cinéma seule ni demander à mes amis de faire des tests, je n'irai pas. C'est dommage car j'adore le cinéma. » En clair, ce que vous redoutez, c'est une baisse de la fréquentation.
Alors, bien sûr, à la fois une certaine baisse de la fréquentation, même si les moins de 18 ans peuvent continuer à aller au cinéma sans présentation de preuve de test jusqu'au 30 août. Et inversement, un surcoût, parce qu'il faut plus de personnel, il faut gérer les queues rapidement, il faut pas qu'il y ait trop d'attentes, parce qu'il faut que c'est quand même un contrôle supplémentaire hein, par rapport au phénomène habituel. Donc effectivement, il va y avoir un moment où les courbes de coûts vont monter et les courbes de recettes vont baisser, pour parler tout à fait économiquement. Et là, il faut que le gouvernement, qui a été aux côtés de la culture et des cinémas du point de vue financier, pas toujours réglementairement. On a eu souvent l'occasion de se plaindre et de crier et de se révolter contre le sort qui nous était fait par l'épidémie et par certaines décisions du gouvernement. Mais financièrement, le gouvernement a été présent aux côtés des entreprises en général et des cinémas. Là, il y a une nouvelle situation économique défavorable. Il faut que le gouvernement soit à nos côtés.
Alors, on a une autre question d'un auditeur par mail, et là, je me tourne vers Capucine Cousin, qui est spécialiste notamment des plateformes et qui est journaliste. Lui nous dit, pour ma part, ça sera non, même si j'en rêve, je n'ai pas l'intention de me faire vacciner ou de faire un test PCR, je ferai comme pendant le confinement, je resterai chez moi et je regarderai des films sur les plateformes. Est-ce que ce pass sanitaire, il va donner un avantage compétitif aux plateformes qui ont déjà gagné beaucoup de parts de marché pendant le premier confinement, notamment?
Tout dépend de l'envie du téléspectateur, enfin du client, parce que on ressent pas les mêmes choses quand on regarde un film chez soi sur son petit écran et quand on va au cinéma, parce que je pense que quand on va au cinéma, on va avoir des nouveautés. Aujourd'hui, vous avez quand même une offre très vaste, des films d'auteur. En plus, il y a le Festival de Cannes qui a vraiment fourni une offre très riche, très diverse cette année, qui reflète vraiment le monde d'aujourd'hui et ses mutations. Et vous avez aussi une offre de blockbusters qui est extrêmement riche, aussi bien des blockbusters américains qui marchent très très bien, y compris chez les jeunes, que des films français grand public. Et quand vous allez voir Space Jam, par exemple, ou Black Widow, qui fait là près d'un million d'entrées en France. Vous allez voir ça avec des amis, avec votre petite amie. Vous partagez ça avec d'autres personnes en même temps que vous. Et vous en prenez plein la vue parce que vous voyez ça sur grand écran avec un super son.
Pas dans
et
votre
tout
canapé.
Ça, vous l'avez difficilement chez vous, je pense.
Ou avec un home cinéma, peut-être.
Bah, je pense que ça reproduit quand même pas totalement ce que vous avez en allant au cinéma. Même si vous avez un très grand écran, un très bon son chez vous, quand même, en allant dans un cinéma qui est bien équipé, type multiplex, vous pouvez avoir des très grands écrans et surtout, vous partagez ça avec d'autres personnes qui sont dans la salle en même temps que vous. Mmh. Et ça, c'est assez unique. C'est une sortie quand même.
C'est pas la même expérience, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que les plateformes, elles avaient gagné du terrain pendant les confinements successifs, qu'elles avaient gagné des abonnés, qu'elles avaient gagné des recettes aussi.
Oui, c'est vrai. Si ce n'est que, en France, en tout cas, les nouveautés, les nouveaux films qui sortent, vous les voyez exclusivement au cinéma. Même si les règles du jeu évoluent un peu, et notamment
on va en parler, peut-être.
Aux États-Unis, par exemple, Black Widow, actuellement, les abonnés Disney+ peuvent le voir sur leur petit écran pour $30, quand même. Ça, en France, vous ne l'avez pas. Donc, si vous voulez voir les derniers films, les nouveautés, c'est uniquement au cinéma que ça se passe. Ce que vous voyez via votre abonnement Netflix, Disney+, ou autre, c'est une offre plus ancienne. Vous avez des nouvelles séries, mais les films sont quand même assez anciens.
Mmh, il y a aussi des vieilles séries, d'ailleurs.
Oui.
Marc-Olivier Sebag, vous vouliez répondre.
Oui, l'expérience du cinéma, telle que vous l'avez évoquée, c'est ça qui fait derrière les spectateurs. Le 19 mai, lorsqu'on a rouvert, il y avait des queues de jeunes spectateurs qui venaient voir presque, j'allais dire presque n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi, c'était Adieu les cons, c'était Demon Slayer, c'était des films qu'ils voulaient voir. Mais l'expérience du cinéma, l'expérience collective de voir dans une salle noire avec des inconnus, c'est très important de voir, de participer à une expérience collective avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous partager pendant 2 heures quelque chose avec des gens que vous ne verrez peut-être plus jamais de votre vie. Et pourtant, avec ces personnes-là, vous avez créé un lien, vous avez créé une relation. Et c'est cette relation... Vous savez, le cinéma, c'est un endroit social, d'abord. Or, ce qu'a fait ce virus, ce qu'on fait ce confinement, c'est de désocialiser les gens, d'éloigner les gens. Or, le cinéma, il rapproche, comme toutes les activités sociales, comme l'école, comme etc. Mais le cinéma, c'est un loisir culturel très populaire qui rapproche les gens, qui crée du lien social. Vous savez qu'il y a deux types d'équipements culturels qui sont le plus présents en France dans les petites communes, c'est les bibliothèques et les cinémas. Et quand vous allez au cinéma, et ben vous participez à une vie collective, vous voyez d'autres gens, vous voyez des gens qui ont le même goût que vous, c'est assez intime en même temps, hein. Mais en même temps, vous êtes partie d'une communauté. C'est ça que les spectateurs ont aimé, et si les plateformes ont fait de la concurrence à quelqu'un, c'est probablement aux autres chaînes de télé, aux autres modes de visionnage à domicile, la vidéo, le DVD, etc., que au cinéma.
Sur l'expérience peut-être un peu modifiée hein, du cinéma aujourd'hui, on a une question de Pierre qui nous appelle de Lyon au Standard de France Inter. Bonjour Pierre.
Oui, donc bonsoir. De Lyon, c'est la ville où est né donc le cinéma. Alors moi, ben, dès le 22 mai, je suis allé au cinéma car je suis un grand passionné de cinéma, même si je dis que parfois je vois de très bons films et parfois des grosses nullités. Même, je veux dire, des grosses merdes à l'écran, hein, comme Titan, La Palme d'Or, excusez-moi, mais vraiment, c'est une grosse merde. Mais on va au cinéma quand même. Alors moi, j'ai une petite inquiétude, que quand j'entends vos invités, je crois qu'ils ont oublié, quand même, ils ont dit qu'il y avait des millions de gens donc dans les queues. Mais moi, j'ai souvenir que quand les salles ont ouvert, au mois de mai, il y avait des jauges à 30%. Et moi, je suis allé au cinéma très souvent, avec des amis, on pouvait pas entrer parce que les jauges étaient à 30%. Et les cinémas, ils nous demandaient qu'on s'inscrive sur leur site. Il a fallu attendre au moins 15 jours, 3 semaines, peut-être même un mois, je crois, le 30 juin, pour que ce soit à 60%. Donc moi, ma grande crainte, même avec le pass sanitaire, est-ce que les jauges, elles vont revenir? Parce que si elles vont revenir, comme on travaille, on peut pas aller en pleine journée pour prendre sa place de cinéma, il faut qu'on aille sur l'ordinateur, tout le monde n'a pas un ordinateur, ça peut être une petite discrimination. Donc je souhaite que les jauges ne reviennent pas dans les salles de cinéma.
Alors, Marc-Olivier Sebag, est-ce que c'est une façon, le pass sanitaire, d'éviter le retour des jauges?
Exactement. C'est pas une façon d'éviter le retour des jauges, mais il n'y a pas beaucoup d'outils dans cette épidémie. Et finalement, ces outils, ils sont assez anciens. Le seul outil moderne qu'on a, par rapport aux épidémies historiques, hein, de l'âge classique, c'est le vaccin, c'est la science. Le reste, les jauges, le confinement, etc., on faisait la même chose dans l'Antiquité, excusez-moi. Donc, pour éviter les jauges, effectivement, il y a le pass sanitaire, mais ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas dit comme ça par le gouvernement, parce que c'est pas mécanique, en fait, hein. Par contre, lorsqu'on avait des jauges, 35, puis 65%, puis 100% à partir du 30 juin, eh bien, on avait plus de spectateurs que ce que mathématiquement devait donner la jauge. C'est-à-dire que on faisait pas 35% de fréquentation, on faisait 45%. On faisait pas 65%, on faisait 75-80%. Donc ça prouve qu'il y a un investissement supérieur au simple calcul mathématique, que l'amour du cinéma, l'émotion qu'on a au cinéma, c'est pas un calcul, c'est plus fort que la mathématique. Et ben ça, il faut s'en réjouir, et c'est ce qu'exprimait monsieur, et on espère effectivement que grâce au pass sanitaire, on va pouvoir avoir de plus en plus de spectateurs, parce qu'ils sont de plus en plus vaccinés, ou ils se sont fait tester, etc., et progressivement retrouver nos 100% de public dans nos salles.
Et dans ce contexte, alors j'ai bien compris, Capucine Cousin, Marc-Olivier Sebac, que vous ne voulez pas opposer les plateformes et le cinéma, mais est-ce que dans ce contexte, la part de marché, enfin la progression qu'ont eu les plateformes, elle va être durable malgré tout, même si elle n'est pas en confrontation directe, comme on le disait peut-être avec le cinéma?
C'est pas certain, parce que Netflix, par exemple, ça va être intéressant. Il va rendre ses résultats trimestriels demain soir pour la France. Donc, on saura quels sont ses derniers chiffres, le nombre d'abonnés. Et c'est vrai que déjà au premier trimestre, aux États-Unis, en tout cas, on avait observé une certaine stagnation. Ils ne parvenaient plus à recruter. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pris des abonnements pour la première fois pendant les confinements pour essayer, ou parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et là, c'est vrai que comme en plus les beaux jours reviennent, on a pas de vacances scolaires. Effectivement, toute l'offre culturelle rouvre. C'est vrai que ça va être un peu l'épreuve du feu pour les différentes plateformes, Netflix et bien sûr les autres.
On parlait tout à l'heure de un des avantages du cinéma, c'est qu'effectivement ils ont les films, les vrais films en premier en général. Ça, c'est un petit peu en train de changer. Vous le disiez tout à l'heure. En fait, en échange de leur participation financière à la production, les plateformes réclament de pouvoir avoir les films plus tôt, peut-être même à leur sortie. Alors, est-ce que cet avantage-là, le cinéma va le garder?
Bah, en France, on a la fameuse chronologie des médias. Alors, c'est vrai qu'il fait l'objet de négociations actuellement. On verra ce que ça donne. C'est suite à l'adoption du décret européen SMAD, qui fait que les plateformes vont devoir verser de l'argent pour contribuer à financer la création de films et de séries. Et en échange, peut-être que ce qu'on appelle la chronologie des médias sera un peu moins sévère qu'aujourd'hui. Mais dans le meilleur des cas, un Netflix ou un Disney+ pourra diffuser un film 17 mois, me semble-t-il, après sa sortie en salle. Ce qui reste quand même assez éloigné, parce que si on prend le cas des États-Unis par exemple, là-bas la chronologie des médias elle est bien bien plus souple, et on a plusieurs exemples de films, y compris de blockbusters chez Warner ou chez Disney, qui sont sortis à la fois en salle et à la fois sur la plateforme, par exemple Disney+, et dans certains cas évidemment l'abonné devait payer par exemple $30 pour Black Widow que je citais tout à l'heure. Mais ça n'arrivera jamais en France.
Et sur la question du coût justement pour les abonnés, est-ce que c'est moins cher d'aller au cinéma ou moins cher d'être abonné à une plateforme?
Ah bah c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'actuellement le coût moyen d'abonnement à une plateforme c'est environ 10€ par mois. Le coût plein tarif d'une place de cinéma à Paris, c'est 12€ par mois. Néanmoins, sur le coût plein tarif, on a souvent ce débat-là. Il y a quand même beaucoup de moyens d'avoir des tarifs réduits pour aller au cinéma. Les séances le matin, elles sont à environ 6-7€ pour tout le monde. Vous avez plusieurs réseaux de cinéma qui font des tarifs réduits pour les chômeurs, pour les demandeurs d'emploi en semaine. Et vous avez également des formules d'abonnement annuelles qui sont assez intéressantes, qui sont parfois prises en charge par les comités d'entreprise. Et il y a beaucoup de comités d'entreprise qui vendent des chèques cinéma à tarifs très très réduits. Et vous avez également des systèmes de cartes cinéma de 5 places à utiliser dans les 3 mois qui vous reviennent à peu près à 6-7€ la place. Vous avez quand même pas mal de moyens aujourd'hui d'avoir des places de cinéma à tarifs très réduits.
Et il ne faut pas oublier que la majorité des Français n'habitant pas à Paris, ils ont des cinémas à côté de chez eux dont les coûts de revient du cinéma sont beaucoup moins importants, parce que si les tarifs dans les grandes villes sont plus élevés, c'est aussi que le coût pour occuper même une très grande surface comme les cinémas, vous savez, on occupe une très grande surface et on a une très faible commercialité au mètre carré. C'est le contraire d'un hypermarché, si vous voulez. Et donc, dans beaucoup de villes, les prix sont moins élevés. Et le prix moyen pour le cinéma, mais je souscris tout à fait à tout ce que vous avez dit, le prix moyen pour le cinéma, si vous prenez l'ensemble des billets vendus et vous divisez par le nombre de billets vendus, l'ensemble du chiffre d'affaires divisé par le nombre de billets vendus, vous arrivez à 6,50€ en moyenne, partout en France. C'est-à-dire qu'une place en moyenne, avec tous les éléments que vous avez donnés, ça revient au bout du compte à 6,50€. Et C'est une pratique assez originale, le cinéma, où plus vous y allez, plus vous avez des solutions pour payer moins cher. Mmh. Donc, c'est un peu l'incitation.
Et pourtant, Marc-Olivier Sebag, on a cette question de Lou par mail qui nous dit « Je suis étudiante, j'aimerais bien retourner au cinéma, mais le coût d'une place est désormais beaucoup trop élevé. » Alors, c'est vrai, effectivement, que ça dépend des endroits, ça dépend des horaires, ça dépend des abonnements. Mais dans certains cinémas parisiens, par exemple, où on peut choisir sa place, on arrive à des tarifs qui sont au-delà de 15 euros.
Oui, et puis dans d'autres à côté, y compris à Paris, même si, encore une fois, à Paris, c'est 15% de la fréquentation en France. Hein. Donc il y a 85% des spectateurs qui vont au cinéma ailleurs qu'à Paris. Et même à Paris, il y a des cinémas qui ont décidé d'augmenter les tarifs réduits pour les jeunes en rajoutant un an, en disant, voilà, les jeunes ont perdu un an, on va rajouter un an de prix bas pour les jeunes. Donc il y a toujours une solution, et quand il n'y en a pas, il y en a encore des solutions pour aller au cinéma moins cher. Donc, sans faire de la promo, comme la fête du cinéma par exemple, pendant la fête du cinéma, c'était 4 euros pendant 5 jours sur toute la France, tous les films, toutes les séances, y compris dans les salles les plus luxueuses et les salles les plus technologiques. Donc, voilà, il faut aller au cinéma et si cette personne ne trouve pas le tarif qui lui convient, qu'elle n'hésite pas à regarder dans tous les cinémas, tous les types de cinémas, elle trouvera sûrement un tarif qui lui convient.
Alors, on a une question de Catherine au Standard de France Inter. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, votre question?
Voilà, ma question, c'était, la question que je me pose, c'est que par rapport, je veux dire, aux nouvelles mesures qui vont être mises en place avec le pass sanitaire, j'avais remarqué déjà, depuis l'ouverture des salles de cinéma, que la fréquentation, tout au moins dans mon département, c'est ce que je disais, que ce soit sur Calquier, sur Château Arnoux, sur Soumanosque, était beaucoup moins importante que ce que je pensais. Bon, c'est vrai qu'il y avait une jauge de 30%, mais moi, j'ai été surprise du peu de spectateurs qu'il y avait déjà. Donc là, je me pose la question, est-ce que ça va pas empêcher encore plus la venue des gens donc dans les salles de cinéma? Et de plus, il y a une question qui me taraude aussi, c'est que je suis une ancienne infirmière retraitée maintenant, et je me rends compte que, je me disais, est-ce que ce manque de clients dans les salles n'est pas dû à une forme quelque part de dépression? Parce que moi, je pense que lorsque petit à petit, restaurant interdit, si on n'a pas le pass sanitaire, les salles de cinéma, bientôt peut-être aller faire ses commissions, il y a des choses qui me posent question, autre que savoir si on a les moyens d'aller un sens de cinéma ou pas. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de climat qui social qui est inquiétant là, actuellement et qui de jour en jour là,
Merci Catherine. La réponse de Marc-Olivier Sebag.
Alors sur la fin de votre intervention, je me prononcerai pas bien sûr, mais effectivement, notre crainte, c'est que les mesures sanitaires qu'on estime nécessaires, parce que l'objectif, c'est de sortir de cette crise, de sortir de cette épidémie, eh bien, on ait un passage difficile économiquement, parce que il y aurait des spectateurs qui ne pourraient plus venir pendant un temps, le temps qu'ils remettent à jour leur statut sanitaire. Et effectivement, ça, c'est une préoccupation très importante de nos adhérents, et on en parle avec les pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions pour que, économiquement, ça ne pénalise pas les salles. Après, depuis la réouverture, on va dire entre le 19 mai et le 21 juillet, voilà, les spectateurs ont été très nombreux, y compris à Fort-Calquier et à Manosque, où il y a un
ça s'est
bon
bien rattrapé, vous voulez dire, voilà. Le retard.
On a eu des périodes de jauge très basse, 35% pendant 3 semaines. Mais par exemple, Adieu les cons, qui était sorti, vous vous souvenez, au mois d'octobre 2020, avait fait 700 000 entrées. Il en a fait 1,4 million. Pendant ou 1,3 million pendant la période du 19 mai jusqu'au 30 juin quasiment, ou même encore après 2021. Et donc il a trouvé son public. Un manga japonais, Demon Slayer, il a fait plus de 600 000 entrées. On a des succès donc dans le cinéma français ou dans le cinéma populaire étranger, formidable. Effectivement, ça a été dur au début, mais la période est dure, et l'objectif, c'est de se sortir de cette situation pour retrouver un niveau normal. Mais ce qu'on a pu constater, c'était l'amour des Français pour le cinéma.
Merci Marc-Olivier Sebag d'avoir rassuré peut-être Catherine. Alors, j'ai quand même une question. On avait parlé au moment de la réouverture du cinéma de l'embouteillage qui attendait les films et de la casse qui pouvait y avoir. Est-ce que finalement il y a que les gros films qui surnagent, et peut-être une perte du côté des indépendants?
C'est très difficile pour tout le monde, hein. C'est très difficile pour les spectateurs, les Français d'abord, hein, parce que la période est très difficile pour tout un chacun. Ça a été très difficile pour toutes les salles qui étaient fermées pendant 6 mois consécutifs et 9 mois en tout. Et effectivement, il y a des moments dans l'exploitation cinématographique où il y a plus de films qu'à d'autres. Par exemple, du 19 mai jusqu'au 9 juin, pendant les 3 premières semaines, il n'y avait pas énormément de films. Et tous les films qui sont sortis à ce moment-là, comme le film Slalom, par exemple, ont trouvé le succès. Par contre, après, du 9 juin jusqu'au 30 juin, il y a eu plus de films, et surtout plus de films pour le même public, des films français, arts et essais, et qui ont dû se partager une audience. Mais c'est vrai que tous ces films-là, ils ont été produits en 2018, en 2019. Ils doivent sortir, ils doivent trouver leur public. Parce que derrière, il y a d'autres films, parce que les tournages ne sont pratiquement pas arrêtés. Donc il y a d'autres films qui vont devoir sortir à l'automne, où il y aura aussi beaucoup de films. Il y aura des films très grand public, comme Aline, vous savez, le film de Valérie Le Mercier, ou le James Bond, qui va sortir à ce moment-là, ou Astérix à la fin de l'année. Donc il y a des films très grand public, et puis aussi beaucoup de films à réessai français, c'est la période reine hein, pour ces films-là. Eh bien, il faut que chacun puisse trouver son créneau, trouver le moment idéal pour sortir. C'est l'art des distributeurs, hein, c'est le métier des distributeurs. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a du frottement. Le Festival de Cannes a aussi mis sur le marché ou a apporté aux spectateurs de nouveaux films, toujours dans le même champ de l'art essai. Mais
un peu de casse quand même, si je vous entends bien.
Mais le mur de film, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire la catastrophe, l'embouteillage, tout ça, on ne l'a pas vu. Après, il y a eu des difficultés pour certains, pas pour tous, mais dans une année normale, ça arrive régulièrement.
Capucine Couzard, la diversité qu'on observe dans le cinéma français, elle est présente aussi sur les plateformes où on se restreint plus à des choses dont on sait qu'elles vont avoir un gros succès, à des gros blockbusters, à des séries qui ont déjà été testées.
Alors en apparence, c'est vrai que les plateformes diversifient leur offre. Par exemple, c'est vrai que depuis un an, Netflix a mis le paquet plusieurs fois sur le cinéma français d'auteurs. Notamment, ils avaient signé un deal avec le groupe de distribution MK2 pour mettre à disposition, juste pendant un an et pour la France, un catalogue de films français d'auteurs type François Truffaut, etc. Ce qui était quand même assez inédit, assez inhabituel de la part d'une plateforme comme Netflix. Là, ils continuent un peu dans cette veine. Et également, là, sur leur plateforme, on a tout un ensemble de films français qui ont été mis à disposition. Pour autant, moi, je ne suis pas sûre qu'ils viennent clairement sur les plates-bandes des petites plateformes d'art et essai françaises comme la Cinéthèque, etc. Mais ils le font un peu, en tout cas.
On a une question au standard de France Inter, de Romain qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Romain.
Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle de Nantes. Merci pour ma question. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Oui.
Allez-y.
Oui, je me demandais en fait si il y avait des clusters de Covid identifiés dans les cinémas, et si oui, lesquels ? Et n'y en a-t-il pas plus dans les événements privés ou familiaux ?
Alors, Marc-Olivier Sebag, des clusters dans les cinémas ou pas ?
Eh bien non, il n'y en a pas eu. Il y a même eu une étude au mois de décembre de l'Institut Pasteur qui a examiné l'ensemble des endroits où s'étaient infectés des gens et les cinémas étaient parmi ceux qui étaient le moins concernés, les moins cités. Évidemment, c'est dans les événements familiaux, dans les restaurants, dans enfin pas dans les restaurants en général, mais disons dans les endroits où les règles sont plus distendues, où les gens se sentent plus libres parce qu'il y a moins de normes qui s'appliquent. Or, dans un cinéma, de tout temps, bien avant la crise, il y a des règles très claires. On ne parle pas pendant le film, on est à une place et on ne bouge pas, on a des chemins très tracés, on rentre au moment de la séance. Donc le spectateur est habitué à suivre des règles très strictes, beaucoup plus strictes pendant notre période, bien sûr, avec le port du masque, etc. Mais il n'y a pas eu, et d'ailleurs c'est le cas dans le monde entier, il n'y a pas été mis en évidence des clusters dans un cinéma ou dans un théâtre d'ailleurs, parce que justement les gens sont immobiles et ils ne parlent pas pendant le spectacle, qu'il soit cinématographique ou vivant.
Et je raccroche à cette question, celle de Pascal sur l'application France Inter. Si un pass sanitaire devient obligatoire pour rentrer dans un cinéma, ça va effectivement être le cas. On n'est pas encore complètement sûr du calendrier, mais ça va être le cas. Va-t-on enfin pouvoir retirer son masque en salle ?
Nous avons entendu le ministre de la Santé, Monsieur Véran, qui a parlé de ça il y a quelques jours. Il a dit lorsque l'ensemble des publics invités à aller au cinéma devront présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire au 30 août, avec les jeunes qui seront à ce moment-là invités à présenter, on pourra commencer à réfléchir à enlever le masque. Voilà. je n'en sais pas plus que ça. Si vous voulez, c'est la question d'après, pour le moment on est sur la question d'avant. Et effectivement, dans la logique pure, ça peut être un objectif, mais pour le moment, on est loin de cette situation.
Alors on a une question au standard de France Inter de Céline qui nous appelle de la Marne. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
C'est plutôt un témoignage d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. Juste pour dire, je réagis à la personne qui intervenait de Manosque et puis à d'autres réactions que j'ai entendues dans l'émission. Personnellement, moi, mon mari et moi, nous sommes amateurs de cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu y aller pour des raisons personnelles, mais là, au sortir avec le pass sanitaire, mon mari et moi sommes vaccinés et j'ai très envie de retourner au cinéma parce que je me sentirai en sécurité grâce au pass sanitaire.
Marc-Olivier Sebag, vous comprenez aussi que certains réclament le pass sanitaire.
Le pass sanitaire, c'est une obligation qui va nous être faite. Donc, l'objectif, quel que soit le moyen que préconise le gouvernement, l'objectif, c'est de mettre fin à cette épidémie. Car je pense que ni madame, ni personne d'autre qui est intervenu ce soir sur France Inter ne veut continuer à vivre dans ces conditions. Ce sont des conditions qui séparent les familles, ce sont des conditions qui éloignent les amis, ce sont des conditions qui sont des conditions que chacun a pris comme temporaire, mais on voit bien que plus elles durent, plus elles sont difficiles à supporter. Donc, si le pass sanitaire en est un des outils, eh bien, utilisons-le et faisons que cette période dure le moins longtemps possible, autant pour les activités de l'expérience, que sont par exemple le cinéma, la culture en général, le théâtre, que pour tout un chacun, parce que je pense que c'est très difficile à vivre et qu'il faut retourner à la joie du cinéma. On l'a vu au mois de mai, quand les cinémas, les restaurants, etc. ont rouvert. La joie pour chacun de vivre sa vie. Et quand on aime la vie, on va au cinéma. C'est un vieux slogan du cinéma. Et donc, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige.
Céline, est-ce que pendant ce moment où vous n'alliez pas au cinéma, vous avez regardé beaucoup de films sur des plateformes ?
Alors nous, on est beaucoup séries, un petit peu aussi, oui, plateformes, comme avant France Télé proposait des choses. Mais sinon,
la plateforme Salto, vous voulez dire ?
Voilà, c'est ça. Ou bien on va aussi sur Canal Plus VOD pour voir des films quand on en a envie, ou alors sur le site de la bibliothèque.
Vous en avez regardé plus pendant cette période de confinement, d'épidémie, etc. Et maintenant, ça va diminuer. Est-ce que vos habitudes changent ?
Ça fait 5 ans qu'on en regarde beaucoup parce qu'on a eu 2 enfants et que voilà, c'est notre vie qui a changé.
Vous sortez moins.
Voilà, c'est ça exactement. Et donc là, ça, les enfants grandissant et puis le pass sanitaire permet aussi de se sentir plus en sécurité parce que j'ai fait attention à pas tomber malade. Pour la vie de la famille, ça aurait pas été possible.
Capucine Cousin, en fait, l'augmentation de la consommation de vidéos à la demande sur les plateformes, elle date de bien avant l'épidémie.
Ah oui, bien sûr. Il faut se rappeler que Netflix est arrivé en France en septembre 2014. Et quand même, c'est allé croissant au fil des années. D'autant que quand Netflix a été lancé en France, il est arrivé, déjà, c'était un nom qui était connu pour certaines créations de séries originales comme House of Cards. Donc il était quand même identifié comme capable de produire et diffuser des séries assez haut de gamme. Donc il y avait quand même cette offre, et c'est vrai qu'il s'est installé peu à peu dans le paysage. Et puis il y a quand même des Français qui étaient déjà présents, je pense notamment au groupe Orange qui était déjà présent avec son offre OCS, d'autant qu'il avait déjà un contrat exclusif avec HBO qui lui permettait de diffuser avec 24 heures d'écart de leur diffusion originale aux États-Unis toutes les séries originales HBO
par exemple.
Comme par exemple
Game of Thrones. OCS a été l'importateur de Game of Thrones en France.
On voit que Marc-Olivier Sebag est amateur de séries lui aussi.
Quand on aime la vie, on aime aussi tout ce qui se voit sur un écran.
Et cette guerre des plateformes aujourd'hui, elle profite à qui surtout ? Elle profite à Netflix en fait ?
Pour l'instant. Mais les choses peuvent encore évoluer parce que Disney se défend très très bien. Disney, c'est quand même un nom qui est très très bien connu en France et en Europe. C'est une marque qui est identifiée comme étant une offre très familiale. Tout le monde sait que Disney, ça englobe tout l'univers Star Wars, tout l'univers Indiana Jones. Donc il y aura une offre très riche pour les enfants, une offre beaucoup plus familiale que ce que proposait en tout cas au début Netflix. Et quand même, en termes de nombre d'abonnés, Netflix, on était dernièrement à 208 millions d'abonnés dans le monde, dont au moins 8 millions en France. Disney, il est à au moins 100 millions d'abonnés dans le monde, sachant qu'il a lancé sa plateforme plateforme bien bien après celle de Netflix. Il y a quand même plusieurs concurrents qui sont en train de rattraper Netflix, y compris des concurrents locaux. On verra ce que ça va donner pour la plateforme française Salto, qui rassemble plusieurs grands acteurs français de la télévision française.
Le nombre d'abonnements, il peut pas monter jusqu'au ciel. On a un budget limité quand même à consacrer à ce
genre
de choses.
Oui, d'autant que là, c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes de vidéo à la demande américaines qui vont se lancer peu à peu en Europe. J'ai oublié de citer également, par exemple, Apple. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà accros à l'univers d'Apple. Donc, pour eux, c'était un ajout assez naturel d'aller vers Apple TV+. Donc, il y a d'autres offres qui vont se lancer. Il y a également plusieurs offres de niche qui existent. Les gens, ils vont faire un choix au fil des années. Et peut-être qu'ils vont délaisser Netflix si l'offre de Netflix ne leur correspond plus à un moment donné.
Mais si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne vont pas faire un choix entre les plateformes et le cinéma. Ça, c'est votre avis en tout cas.
Je le pense.
Marc-Olivier Sebag.
Un des sujets, mais qui concerne aussi la radio et l'ensemble en fait des loisirs des Français. Vous parliez d'un budget limité, mais il y a aussi un temps limité.
Oui.
Et le temps limité qu'ont les gens en dehors du travail et du sommeil, qui sont quand même les deux grands champs qui échappent au loisir, à la culture, eh bien ce temps-là, il doit se partager. Il doit se partager entre écouter la radio, entre lire un livre, entre aller au cinéma, entre regarder une série sur une plateforme. Et c'est entre parler avec ses amis aussi, hein, et c'est ce temps-là qui est plus que peut-être la question financière, qui est réelle, hein, mais plus que celle-là, c'est comment est-ce qu'on occupe son temps, y compris avec le jeu vidéo, si on pense aux jeunes, et comment on le partage entre tous ces plaisirs de la vie, certains collectifs, d'autres plus solitaires, et bien comment on les occupe, et c'est ça l'enjeu qui est devant nous par rapport à toutes ces sollicitations.
On a une question de Pierre par mail. Une des solutions pour continuer à projeter des films sans risque, c'est le cinéma en plein air. Or, tout récemment, le Centre National de la Cinématographie a empêché ma municipalité d'organiser ce type de séance, n'est-ce pas ubuesque? Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Olivier Sebag?
Alors, d'une part, le cinéma en plein air, il y en a partout en France tous les étés, mais il y a des règles qu'il faut respecter, il y a des commissions qui se réunissent dans chaque région pour éviter que tout ça soit trop, anarchique, et pas à côté de l'exploitation traditionnelle du cinéma en salle, qui est la structure sans laquelle le cinéma en plein air ne pourrait pas exister. C'est parce qu'il y a des salles de cinéma, c'est parce qu'il y a des films qui naissent dans les salles de cinéma que, après, il y a des cinémas en plein air.
Et vous avez eu connaissance de ce genre d'histoire déjà?
Il y a des commissions qui se prononcent. Alors, je ne sais pas à quel cas exactement il fait référence.
Non, mais il ne nous donne pas le nom de sa commune.
Voilà, il y a des commissions, et puis il y a des gens aussi qui ont des projets qui ne sont pas des projets culturels, qui ne sont pas des projets d'animation. Tout à fait normal qu'il puisse y avoir ces projets-là, mais pas les autres. Et donc, ces commissions, elles se réunissent dans chaque région. Donc, c'est très local, hein, c'est des avis très locaux. Elles émettent un avis, et puis après, il y a des décisions qui sont prises. Mais il y a des dizaines, des milliers de séances de cinéma en plein air chaque année, forcément certaines qui sont à intérêt culturel limité, ou s'il y en a trop dans une région par rapport à une autre, etc., elles ne peuvent pas se faire, mais globalement, elles se feront. Et d'ailleurs, le pass sanitaire sera probablement nécessaire, il faut attendre de voir les textes pour ces projections-là. Mais il n'y a pas de... C'est un équilibre qu'il faut trouver entre qualité culturelle, intérêt du projet, équilibre local. Et c'est pour ça que ces commissions qui se réunissent au début de l'été en général travaillent beaucoup et permettent que ces propositions de cinéma en plein air.
Alors on parlait tout à l'heure de la quantité de films qui étaient sortis au même moment. Il y a aussi la question de la qualité. Est-ce que la qualité des films aujourd'hui c'est la même après la pandémie, alors qu'il y a eu des baisses de financement, ça on l'a vu, il y a eu des interruptions de tournage, etc.
C'est toujours difficile de se prononcer sur la qualité des films, mais globalement, si on regarde les films des années 70, les films des années 80 et les films d'aujourd'hui, pour beaucoup, ça n'a rien à voir. Pour beaucoup, la qualité des films globalement, c'est bien amélioré. Alors on me dit, vous pouvez pas dire que on a amélioré par rapport à Fellini ou par rapport à John Ford. C'est pas ça dont on veut parler, mais la qualité technique et globalement dans les films. Qui ne sont pas les films les plus en avant, la qualité d'interprétation, la qualité des techniciens, des réalisateurs, des producteurs qui financent ces films, et la qualité artistique globale, effectivement, elle s'améliore. C'est pour ça qu'en France, le cinéma aujourd'hui enregistre dans une année normale plus de 200 millions d'entrées, et figurez-vous que c'était le même chiffre qu'au milieu des années 60. Donc on a retrouvé aujourd'hui en France le même nombre de spectateurs. Alors c'est parce qu'il y a des super salles de cinéma que je représente, donc et elles sont modernes et elles
donc
sont confortables.
Vous faites un peu la promotion du coup au passage.
Ça c'est sûr, mais on va au cinéma d'abord pour voir des films. Et c'est parce que ces films les films français, mais aussi les films étrangers, sont de chaque jour de meilleure qualité. Alors, la notion de qualité artistique, hein, encore une fois, c'est une notion très subtile, très difficile, mais en tout cas, il y a un savoir-faire, il y a une énergie, il y a une joie aussi dans les médias pour soutenir le cinéma, grâce à France Inter, qui labellise des films. Eh bien, tout ça contribue à faire que les Français aiment le cinéma. Au pays des Frères Lumière, eh bien, il y a les deux grands pays du cinéma, c'est le pays d'Edison, les États-Unis, le pays des Frères Lumière, la France. Il y a aussi d'autres pays comme l'Inde, la Corée, etc. Mais dans notre Europe occidentale, notre monde occidental, c'est bien sûr ces deux pays qui sont en avant.
Capucine Cousin, la production des plateformes, les films qui sortent en exclusivité sur les plateformes et les séries, elle est à la hauteur, elle peut rivaliser avec des films qui sortent d'abord au cinéma, des films qui ont des sorties, des parcours plus classiques.
Ah oui, tout à fait. On a eu plusieurs précédents. Je pense par exemple au film Roma, qui est sorti directement, exclusivement sur la plateforme Netflix, qui a eu des prix. Ça montre que quand même, en fait, aujourd'hui, on observe la capacité des grosses plateformes à signer des contrats avec des réalisateurs, des cinéastes de renom. Vous avez quand même Martin Scorsese, qui est un des plus grands cinéastes américains actuels, qui a signé son dernier film. C'était un film pour Netflix. Il y a plusieurs autres exemples comme ça. Jane Campion, cinéaste qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1993. Son prochain film, il sort sur la plateforme Netflix. On ne sait pas encore pourquoi exactement. Peut-être parce que ses réalisateurs ne peuvent trouver leur budget que chez ces plateformes. Ça a été le cas pour Scorsese, The Irishman. Il avait un budget de 200 millions de dollars qu'il visiblement il n'avait pas trouvé ailleurs. Ça peut être aussi parce que certains de ces cinéastes estiment que c'est un mode de diffusion aujourd'hui qui leur convient, qui correspond au monde d'aujourd'hui. Mmh. Mais c'est certain que les grands réalisateurs de cinéma traditionnels, plusieurs travaillent maintenant avec ces plateformes.
Marc-Olivier Sommeil.
Et on a l'exemple inverse avec Bang Joon-ho, qui a obtenu la Palme d'Or en 2019 avec Parasite. Il avait fait précédemment un autre film qui s'appelait Okja, qui était pour Netflix, dont très peu de gens ont vu, et qui est, on va dire, qui a apporté moins de notoriété à son auteur que Parasite, avec lequel il a gagné la Palme d'Or. Donc, la salle de cinéma, Elle est là pour tous les Français. On espère que ça va être en beaucoup plus grand nombre encore dans les semaines qui viennent. Et elle permet à tous les artistes de s'exprimer au cinéma, les plus grands et les plus débutants aussi.
Marc-Olivier Sebag, très rapidement, des nouvelles de votre recours auprès du Conseil d'État sur l'application du pass sanitaire des mercredis dans les salles?
La situation est un peu complexe parce qu'il y a à la fois un texte de loi, un avis du Conseil d'État et puis un décret qui pourrait paraître du jour au lendemain pour faire que les salles de cinéma dès le 21 juillet doivent imposer le pass sanitaire. C'est demain qu'on saura exactement ce qu'il en est et qu'on pourra voilà.
Et ben on verra demain. Merci beaucoup Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. Merci à Capucine Cousin, auteur de Netflix et compagnie Les coulisses d'une révolution chez Armand Collin. Merci à tous les deux d'être venus sur France Inter. Merci aussi à Adèle Domas et Pierre de Certaines pour la préparation de cette émission. Et grand merci à Fabrice Desmaz et Philippe Duclos à la technique.